La convention annuelle Anacofi au Carrousel du Louvre sur Radio Patrimoine.
Et ce matin, on accueillait David Charlet, une autre représentante de l'Anacofi, Céline Minc. Bonjour Céline.
Bonjour à toutes et à tous.
Merci de prendre ces quelques minutes dans cette journée bien remplie de cette convention ici au Carrousel du Louvre pour venir nous parler, vice-présidente de l'Anacofi IMO. Je vais vous mettre tout ça dans le même sac. Il y a des SCPI, il y a des taux, il y a le marché de l'IMO. Comment la vice-présidente de l'Anacofi IMO perçoit, analyse, ressent un petit peu ce monde de l'IMO quand on le fait rimer, puisque c'est le but des CGP, des CIF, etc., avec le monde patrimonial?
Alors, on va essayer d'être le plus objectif possible, parce que j'ai toujours pas de boule de cristal. Je sors du Salon de l'immobilier de Toulouse le week-end dernier. Moi, ce que j'ai vu, c'est des professionnels qui retrouvent confiance. Quand on regarde les data marchés, par exemple sur le financement, on voit que là, les planètes sont un petit peu plus alignées, les taux ont rebaissé. Le PTZ, depuis le 1er avril, bien plus élargi, y compris sur la résidence principale. Donc voilà, il y a des feux qui commencent vraiment à tourner au vert un peu plus profond. Après, le marché du neuf, il va quand même falloir qu'il se relève. Il y a encore des points qui vont être difficiles. Ça vous a pas échappé qu'il y avait les élections des maires en 2026. Il y a eu moins 30% de dépôts de permis de construire et d'ouverture de chantier. Enfin, voilà, le neuf est encore stigmatisé. Et c'est pas du jour au lendemain que ça va se mettre. Là, il y a des offres sur le neuf pour remplacer le Pinel qui commence à se mettre en exergue, on va dire, notamment le LLI. Il va y avoir des choses intéressantes à faire avec ce logement locatif intermédiaire. Au fur et à mesure, il faudra être d'autant plus vigilant pour bien sélectionner le produit et pas ne voir que l'enveloppe fiscale. Et puis, bien sûr, ne pas oublier que l'investissement SCI, c'est pas pour tous les foyers. Il y en a qui n'ont pas besoin. Ouais. Donc voilà, donc ça sur ce point-là. Le marché de l'ancien, je pense qu'on va continuer à travailler sur de la restauration, sur de la rénovation. On devrait être aux alentours de 780 000 ventes à peu près sur 2024. Donc là encore, on va continuer à travailler, mais je crois qu'on en parle un petit peu plus tard.
Alors justement, ici, tout le monde connaît l'Anacofi, on est au cœur de la convention. Maintenant, peut-être que dans les auditeurs et dans les téléspectateurs, il y en a certains, certaines qui se disent « Bon, mais alors, ces grandes chambres, ces grandes associations, à quoi servent-elles » etc. Bon, on va essayer de prendre une illustration du travail que vous effectuez aussi en se s'accordant quelques minutes sur un point précis sur lequel vous avez agi au cours des derniers mois. Ça concerne la question des cartes professionnelles. Ouais. Alors voilà, à quoi, par exemple, vous avez travaillé et donc à quoi une grande association comme l'Anacofi sert?
Alors, une association, nous, on a un rôle de représentativité de nos membres. C'est la première vocation. Mais bien évidemment, indirectement, par ricochet, on a aussi une vocation à représenter l'ensemble des parties prenantes. Puisque pour que nos membres aient un environnement qui soit stable et porteur, il faut que toutes les parties prenantes y trouvent leur avantage. Donc l'exemple qu'on citait en introduction de cette question, c'est notamment le décret d'application qui va arriver pour la formation initiale de nos délégataires de cartes professionnelles immobilières, c'est-à-dire ceux qui travaillent pour le porteur physique de la carte professionnelle. C'est un décret qu'on attendait depuis mars 2014, puisqu'il a été inscrit dans la loi Allure.
Je vous rappelle pas la date du jour ?
Non, mais on peut chercher. Non, mais c'est marquant, parce que quand même, plus de 10 ans pour avoir un décret
juste
d'application.
Un décret, hein.
Voilà. Et la FNAIM a donc attaqué en Conseil d'État et il y a eu gain de cause. Et donc le Conseil d'État a obligé le gouvernement à publier ce décret dans les 6 mois. Donc ça veut dire dans l'été, donc maximum pour septembre. Donc là, ça a été un gros travail de réflexion pour visualiser ce qui était décemment demandable aux professionnels, c'est-à-dire il faut que la barrière ne soit pas rédhibitoire à l'entrée. L'idée, c'est pas de ne plus avoir de gens pour travailler avec nous, mais c'est au contraire de les valoriser d'une part, parce que la formation initiale, c'est valorisant, c'est un capital que chacun va pouvoir garder pour soi, pour ses activités futures, et puis c'est sécurisant pour l'investisseur qui va discuter avec eux. Donc voilà, un gros travail là-dessus.
Et une illustration intéressante. Il y a un autre mot un autre thème qui bouge beaucoup dans le monde patrimonial et dans le monde immobilier, c'est celui du statut du bailleur privé. Et alors bon, on va dévoiler à mi mot les coulisses, mais quand on s'est parlé pour préparer un petit peu notre entretien, vos réponses, vos propos allaient plus loin que la seule question de se dire il faut un statut. Enfin, il y a des questions du bailleur, enfin autour du bailleur.
Oui, alors ça, c'est effectivement aussi un bon exemple de « on travaille pour l'ensemble des parties prenantes ». Et c'est un travail au long cours. Hein. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille dessus et on va encore travailler beaucoup dans les prochaines semaines. Alors, il s'appellera statut du bailleur privé ou pas, en fait. C'est pas notre préoccupation première. Nous, ce qu'on voudrait vraiment, c'est de redonner de la rentabilité à l'investisseur.
Évidemment.
Il a un rôle sociétal majeur. Il pallie la défaillance de l'État dans un certain nombre de cas. Il prend les risques. Il assume les charges. Ça ne peut pas être pour 2 points de rentabilité. Ce n'est pas possible. Donc, il faut redonner de la rentabilité à cet investisseur. Si ça doit passer par une refonte profonde de droit commun, de la fiscalité de droit commun, et si ça doit s'appeler statut du bailleur privé ou autre, eh ben on agira comme ça. Et ce ne sera pas suffisant. C'est-à-dire que c'est essentiel, mais à côté de ça, il faut aussi repenser un certain nombre de points dans la relation bailleur-locataire. Et on peut reprendre l'exemple qu'on a cité tout à l'heure. Quand un investisseur faisait du Pinel, je dis faisait parce qu'il s'est arrêté au 31 décembre, faisait du Pinel pour mettre son locataire en résidence principale, puisque c'est une des conditions sine qua non pour bénéficier du Pinel. Il fallait que ce locataire reste en résidence principale dans cet appartement. Si le locataire change pour une raison ou pour une autre, fait plus de télétravail et donc en fait sa résidence secondaire, l'investisseur est requalifié.
Et donc c'est au bailleur, à l'investisseur, de courir entre guillemets après son locataire pour dire est-ce que c'est bien toujours ta résidence principale, parce que sinon c'est moi qui vais trinquer.
C'est ça, c'est fou. Hein,
ouais. C'est comme finalement ce sont des questions qui se rapproche des impayés, des...
Alors, les impayés de loyer aussi.
Ça, c'est un sentiment
c'est un marqueur.
Diffus.
C'est ça. C'est aujourd'hui, alors je n'ai pas les stats extrêmement précises, mais on doit être de l'ordre de 2% de loyer d'impayés en France, ce qui objectivement
n'est pas beaucoup.
Est très peu.
En revanche, alors, pour
quand
chaque
on est concerné,
bailleur,
c'est beaucoup. Hein,
c'est
mais,
beaucoup.
Voilà. Mais dans l'inconscient collectif, je pense qu'il y a nombreux propriétaires bailleurs qui ont vraiment cette peur viscérale d'avoir des impayés de loyer. Et donc, en gros, ils doivent stigmatiser cette problématique comme étant ultra prépondérante, alors qu'elle ne l'est pas. Mmh. Et donc, même si elle ne l'est pas, il faut la traiter.
Bon, ça fait quand même pas mal de questions à résoudre et à mettre sur la table. Juste pour terminer, depuis ce matin, vous êtes dans les allées de cette convention, vous croisez vos petits camarades, CIF, CGP, etc. Vous la qualifieriez comment, cette édition? Quelle est l'ambiance?
Moi, je trouve que les gens sont optimistes, volontaires et encore une fois, heureux de se retrouver. C'est quelque chose qui... ça fait un peu radotage, là, parce qu'on n'arrêtait pas de dire ça depuis le post-Covid. Mais vraiment, c'est un leitmotiv. Les gens sont heureux de se retrouver, d'échanger. Et là, oui, je ressens, moi, beaucoup plus d'optimisme. Et de l'objectivité, c'est-à-dire c'est pas de l'optimisme pour se faire plaisir. Ouais,
c'est pas juste dire j'y crois. C'est pas de la méthode quoi.
C'est ça.
Merci Céline.
Avec plaisir.
Céline Mingue, vice-présidente de l'Anacofi IMO sur Radio Patrimoine.
La convention annuelle Anacofi au Carrousel du Louvre sur Radio Patrimoine.